Le bonheur en musique, Edith Walter.
Bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui, ce bonheur, eh bien, il est avec Saint-Saëns, un immense compositeur qui n'a pas la place qu'il devrait avoir en France, et puis avec deux violonistes qui appartiennent à des formations différentes. La famille Tchalik, que l'on retrouve, que vous connaissez bien, c'est Gabriel, le violoniste, et puis c'est Fanny Clamart-Girand, qui est venue aussi, chacun venant avec des disques autour de Saint-Saëns, vous l'avez compris. On reste avec Saint-Saëns. Et je vous propose d'écouter la danse macabre de l'opus 40, Vania Cohen au piano et Fanny Clamart-Girand au violon. On écoute la danse macabre, opus 40, Saint-Saëns. Thank you. C'était la danse macabre que vous avez tous reconnue de Saint-Saëns et cette Fanny va nous dire ça. Fanny, c'est Saint-Saëns lui-même qui a transcrit pour cette formation piano-violon.
Oui, tout à fait, exactement. En fait, on a rassemblé dans cet album des versions originales pour violon et piano, donc de la main de Saint-Saëns. Effectivement, la danse macabre ou les autres œuvres, mais dont on parlera peut-être plus tard, sont plus connues dans leur version orchestrale. Mais voilà, celle-ci est bien de la main de Saint-Saëns.
Elle est réjouissante. Alors, je vous ai dit, c'est Saint-Saëns qui est à l'honneur. Puis nos deux violonistes, bien sûr, deux disques différents. Le Saint-Saëns de Fanny Clamagiran et de Vania Cohen, c'est la danse macabre, introduction au rondo capriccioso, la vanesse et l'air de Dalila. Et l'autre disque Saint-Saëns, eh bien, c'est le quatuor tchalik, avec deux quatuors de Saint-Saëns qu'on n'entend pas souvent. Restons pour l'instant avec Fanny. Fanny, alors, vous me disiez, oui, évidemment, cette période de Covid n'a pas été la plus facile pour ces musiciens, pour ces interprètes. Et théoriquement, beaucoup de projets étaient bâtis autour de Saint-Saëns, puisqu'il est mort il y a 100 ans, et qu'on fête son anniversaire dans la mesure où on fête les anniversaires des morts.
Ouais, finalement, c'est une bonne chose aussi, ça nous permet de les célébrer, de leur rendre hommage un peu plus spécialement pendant ces années-là, parce que on joue du Saint-Saëns tout le temps, et surtout pour les violonistes, c'est quand même un compositeur incontournable du répertoire.
C'était son instrument favori, non?
Je pense qu'il a énormément écrit pour le violon, il a beaucoup écrit, peut-être même plus pour le piano, il était organiste, il aimait de toute façon.
Alors d'abord c'était l'orgue,
après le piano et après le violon, c'est ce
le
que je dirais.
Le piano et après le violon.
Oui, hein? Oui.
On peut dire ça.
On pourrait dire ça comme ça.
Un mot sur Saint-Saëns, il vit très longuement puisqu'il naît en 1835 et qu'il meurt en 1921, puisqu'il est mort il y a 100 ans, et qu'il écrit plus de 600 œuvres.
Ah oui, il a écrit énormément pour donc beaucoup d'instruments et beaucoup de formations. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'il laisse un catalogue aussi riche pour le violon. Et justement, j'avais déjà commencé cette recherche approfondie ou ce travail approfondi, cette immersion dans son univers depuis quelques années avec trois disques de Saint-Saëns, enfin consacrés à Saint-Saëns. Déjà avec l'intégrale des concertos, toujours chez Naxos, parce qu'en fait ce dernier volume s'inscrit vraiment dans une continuité évidente avec les autres enregistrements que j'avais déjà proposés chez eux.
Et c'était quand les concertos?
Alors les concertos c'était en 2009, et puis on a fait une intégrale violon-piano des œuvres original violon-piano avec Vania Cohen en 2013, et qui justement mettait en lumière des œuvres qui étaient pratiquement pas ou très peu jouées, que même nous ne connaissions pas forcément. Alors bien sûr, les œuvres phares comme la première sonate ou certaines œuvres tirées du Carnaval des animaux, des choses qu'on a l'habitude d'entendre et faisaient partie. Mais il y avait plein d'autres œuvres, et c'est à ce moment-là que en fait j'ai pris conscience de la richesse de Saint-Saëns, et du fait que il était certainement pas assez représenté et servi en France. Et donc au fil des années, il y a eu une certaine proximité, un lien qui s'est créé avec lui au travers de ce travail d'enregistrement, de ce travail aussi en concert, parce que j'ai eu la chance aussi de quand même pouvoir le jouer, jouer beaucoup de ses œuvres, proposer dans divers concerts, récitals
Il y a une demande de la part des organisateurs de concerts.
Oui, je pense qu'une fois, en fait, c'est sans doute quelque chose d'assez courant. Finalement, le fait d'avoir enregistré certaines œuvres ou beaucoup d'œuvres, il y a des gens qui ont aimé l'idée, qui ont aimé peut-être la démarche, et qui ont aussi redécouvert des œuvres qu'on n'entendait pas et qui étaient justement enthousiastes à pouvoir les proposer à leur public, et parce que c'était finalement de devenu un terrain un petit peu plus connu, parce que c'est sûr que quand on parle de la sonate numéro 2 de Saint-Saëns pour violon et piano, on n'a pas forcément d'idée en tête.
Moi, j'ai demandé à Gabriel Chalik, je vous rappelle que c'est cette famille incroyable qui a 5 enfants, j'en oublie pas, hein, 5 enfants qui font des carrières professionnelles absolument remarquables. Et là, ils se sont réunis tous les 4 pour faire l'équateur de Saint-Saëns. Alors, c'est la même chose, Gabriel. Ce sont des quatuors qui ne sont pas très connus. Et comment vous êtes venu à Saint-Saëns, ta famille ?
Un peu comme je dirais comme Fanny, que en tant que violoniste on joue quand même régulièrement du Saint-Saëns, puisqu'il y a certaines pièces qui sont un peu canoniques du répertoire, l'introduction et Rondo Capriccioso, la Vanèse, le troisième concerto sont des pièces qu'on joue de toute façon. Ensuite j'ai aussi enregistré un petit peu de Saint-Saëns pour violon et piano. La première sonate, c'était dans un programme Proust, puisque Proust dit que dans une dédicace que la fameuse petite phrase de la sonate de Vinteuil viendrait du deuxième thème du premier mouvement de la première sonate de Saint-Saëns. Ça, c'était le cadre là, dans lequel j'ai pour la première fois enregistré du Saint-Saëns. Et puis, naturellement, notre quatuor joue beaucoup de musique française. On a enregistré l'année dernière Reynaldo Hahn. Et donc, on a pris le premier quatuor d'abord. Et on s'est rendu compte que c'était une œuvre absolument incroyable, très très riche.
On va en parler longuement, Gabriel, parce qu'on va entendre un extrait, évidemment, de ces quatuors. Je vais revenir à Fanny, simplement parce que je voudrais que Fanny nous dise, et puis vous nous le direz aussi, Gabriel, chez qui vous avez enregistré la danse macabre, l'introduction et le rondo capriccioso, la Vanèse et l'air de Dalila, ce disque consacré donc à Saint-Saëns, avec Vania Cohen. C'est chez Naxos, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, je ne connaissais pas Vania Cohen, vous connaissez vous, mais je ne connaissais pas Vania Cohen, et j'ai découvert que c'est une très belle pianiste et qui fait une carrière formidable aussi.
En fait, effectivement...
Vous êtes beaucoup ensemble, hein?
Oui, on se connaît depuis très longtemps. On a tissé des liens forts, aussi musicaux et aussi amicaux, donc qui ont fait que, au fur et à mesure, la complicité s'est installée et on a fait de nombreux concerts ensemble, et puis on a eu ces projets discographiques autour de Saint-Saëns, et puis là voilà ce troisième opus toutes les deux autour de d'œuvres encore de Saint-Saëns.
C'est très joli de voir ces deux jeunes femmes absolument ravissantes qui se penchent sur leur instrument et jouent divinement. C'est un très joli spectacle. Et puis, pour notre âme de musicien, c'est tout à fait épatant, parce que vous êtes toutes les deux, vous entendez magnifiquement. Mais là, ce disque-là, vous l'avez décidé toutes les deux, Vania et puis vous, Fanny.
Oui, peut-être que, disons que au départ, c'était moi qui avais le contact, l'idée, le lien avec Naxos, puisque cette collaboration, elle dure depuis longtemps, mais il y a eu des périodes où j'ai travaillé pour d'autres labels aussi, et finalement, on savait, il y avait tellement d'œuvres que il y avait encore cette possibilité d'enregistrer d'autres choses, et puis donc on en a parlé ensemble et on était convaincus que c'était un bel hommage et justement de pouvoir jouer des œuvres populaires, virtuoses, dansantes et qui célébraient vraiment au mieux peut-être cette année anniversaire.
C'est vrai qu'il est très réjouissant, ce disque, mais vos deux disques, et tellement que je vous ai dit hors micro, et je le pense encore à l'instant, c'est que j'aurais pu faire vraiment deux émissions, chaque émission pour chaque disque. On va entendre l'air de Dalila, une merveille. Il adorait les transcriptions et il est parti de son opéra et il a pris l'air de Dalila et il en a fait une œuvre pour Fanny.
Alors, avant de la faire pour Fanny et Vania, il l'a surtout faite pour la reine Elisabeth de Belgique, quand
oui.
même autrement
non, mais,
plus.
On en parle moins que de vous aujourd'hui.
je ne sais pas, mais c'est drôle parce que dans un des précédents albums, il y avait l'air de la pendule et vraiment qui dure 2 minutes, donc c'est quelque chose de, qu'on pourrait dire un peu insignifiant, voilà, parce que c'est tout court, mais ça a une saveur particulière.
Le mot insignifiant n'a pas de sens, là, vraiment.
Non, parce non, que... mais dans le sens insignifiant, oui, parce que c'est tellement court qu'on l'oublie, mais en fait, c'était déjà un petit air qui était dédié, parce que je pense qu'il l'avait écrit quand il était très jeune, ou nettement plus jeune.
Mais quel talent,
pour la reine Elisabeth. Et donc, en fait, cette air de Dalila, il l'a spécialement transcrit pour violon et piano pour la reine Elisabeth de Belgique, parce qu'il avait un lien d'amitié avec elle, et donc c'était un cadeau. Donc, c'était une œuvre qui était à l'usage exclusif, en fait, de la famille royale. Et donc, ici, dans ce disque, c'est la première fois qu'il est enregistré.
Voilà, on vous écoute donc avec cet air de Dalila et autres. Cet extrait de ce disque consacré à Saint-Saëns, sorti chez Naxos. Et je vous rappelle que c'est Vania Cohen et Fanny Clamagiran qui en sont les interprètes.
Thank you.
C'est un extrait de ce disque consacré à Saint-Saëns qui contient donc la danse macabre que vous avez déjà entendue, l'introduction au rondo capriccioso, la vanesse et l'air de Dalila qui vous a charmé, j'en suis convaincue. Je vous rappelle que c'est Vania Cohen qui est au piano et que c'est Fanny Clamagiran qui est au violon. Et puis, je vous ai donc dit, vous l'avez déjà entendu, que Gabriel Tchalik est avec nous. Je bute sur ce nom. Vous êtes d'origine russe, Gabriel. Mmh.
Ouais.
Qu'est-ce qui est russe dans la famille?
C'est notre papa.
C'est votre papa. Ouais. Qui a vécu en Russie ou...
Oui, qui est né en Russie, qui a vécu la première partie de sa vie en Russie, qui a émigré à la fin des années 80. Et ma mère, qui est française, travaillait en Russie et se sont rencontrés là-bas.
Alors, quand vous venez ici, quand j'ai la joie de vous avoir, un des membres de la famille Tchalik, je ne me lasse pas de vous faire raconter votre histoire. C'est tellement merveilleux de mettre au monde des enfants, 5 enfants, tous suffisamment doués pour faire des carrières professionnelles et tout l'entente, on imagine cette maison bruissante vraiment de musique.
Maison c'est... de fou.
C'est fou. Mais vous reviendrez en reparler et puis Fanny aussi. Là, on se concentre un peu sur Saint-Saëns. Alors ce Saint-Saëns, c'est quand même très incommode, le fait qu'il naît au 19e, à un moment où la musique n'est pas du tout ce qu'elle va devenir au 20e. Et quand on pense qu'il a parcouru tout ça, avec ce tumulte politique, tout ce qu'il a vécu, les deux guerres, cette ascension, cette fulgurance vraiment d'évolution dans le langage musical, et lui, au 20e siècle, il continue son bonhomme de chemin. Et sans tellement regarder le passé, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, donc Saint-Saëns, c'était pas le compositeur moderne, effectivement. C'est pas lui qui a révolutionné peut-être la musique, mais
c'est pas Webern, c'est pas
peut-être, ou disons en France, c'est pas Debussy, mais c'est quelqu'un qui avait toujours d'abord une grande inspiration, un très grand métier. Et donc, quand on a ces deux choses là, même si on veut être si on veut pas être révolutionnaire, on fait forcément des belles choses. Et d'ailleurs, si on prend juste le cas du deuxième quatuor là qu'on a enregistré, il est composé en 1918, donc on est déjà presque au niveau du groupe des six. Ravel et Debussy ont déjà Debussy meurt cette année-là. Et en fait, c'est une œuvre presque néoclassique. Et en fait, le groupe des six qui arrive après, justement, s'emparera de cette question du néoclassicisme. Et dans un certain sens, il est presque en avance à la fin de sa vie quand il revient au compositeur du passé. Il est presque en avance sur les autres. C'est un
de
peu l'ironie
de l'histoire.
Je ne
sais pas ce que vous en pensez, mais quand on entend ces deux quatuors, le premier comme le second, moi j'ai eu tellement de plaisir à les découvrir, à les écouter, que ça m'est complètement égal qu'ils soient ou non contemporains de Ravel ou pas.
Voilà, on s'en fiche. Et puis,
absolument, c'est la beauté. Et puis...
Voilà, et puis les deux quatuors sont si différents l'un de l'autre que ça se complète très bien et qu'il n'y a aucune fatigue ou aucune redondance en fait dans le fait de les coupler. C'est très intéressant ça.
Vous l'avez déjà joué en concert les
oui, quatuors. Oui, bien sûr. On a joué les deux, notamment au Palazzetto Bruzane à Venise, juste avant le deuxième confinement. On a gardé ce souvenir après pendant quelques mois, pendant 8 mois, on n'a pas rejoué après ce concert.
Donc, pendant 8 mois, vous n'avez pas joué.
Oui, après ce concert, c'était le 22 octobre 2020. Et après, pendant au moins 8 mois, on n'a pas joué du tout. Enfin, en tout cas, on n'a pas joué devant un public. Oui,
mais comment
long.
Toute la famille peut vivre?
Parce que heureusement,
vous êtes tous dépendants de la musique, si je puis
heureusement,
dire.
Heureusement, on est intermittents et il y a un statut en France qui permet quand même un statut
c'est
exceptionnel qu'il faut se battre pour qu'il reste. Parce que il y a beaucoup de pays, on avait beaucoup de collègues qui n'avaient pas la chance d'avoir ce statut et qui n'avaient pas la chance d'avoir des aides du coup pendant cette période où il n'y avait aucune rentrée. Et voilà, en plus ce statut est aussi un certain fonctionnement qui fait que tout le monde n'a malheureusement pas droit. Mais voilà, donc heureusement on a pu continuer de répéter pendant cette période.
Vous êtes nombreux à dire cela, à être reconnaissant et à dire que la France a joué un rôle particulier et que dans d'autres pays, d'autres musiciens se sont vraiment écrasés. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que ça a été suicidaire pour eux.
Oui, il y a beaucoup de musiciens qui ont dû prendre un autre métier, quoi, qui ont dû faire autre chose pour pouvoir survivre. Nous, on a eu la chance de pouvoir continuer nos répétitions et enregistrer des disques. Donc, on est assez privilégié.
Alors, ce premier quatuor, d'abord, votre disque est sorti chez qui ?
chez Alkonost Classique, qui est notre propre label familial.
Alkonost.
Voilà,
c'est un... pas facile ça.
Non, en fait, c'est un personnage de la mythologie russe. Oui, mais ça commence par un A, ce qui est pas mal du tout pour un label.
Ah.
Et non, mais en fait, quand vous le voyez écrit, ouais. c'est pas si terrible. Voilà, ça passe.
Comment on fait pour ça ? Et vous, oui, il est distribué.
Chez
Disquaire,
chez les disquaires. Et le mieux, si vous voulez vous en procurer un, c'est de toquer à notre porte ou par mail alkonostclassique@gmail.com ou quatuorchalik@gmail.com. Vous nous écrivez un petit mail et on vous répondra et vous pourrez vous faire livrer. Il faut privilégier les circuits courts, je crois. Donc,
c'est très bien, Gabriel, parce que ce soit le disque de Fanny ou le vôtre, ça fait du bien de... Je dois dire que je n'ai pas une fréquentation énorme, malgré mon métier depuis bien, bien longtemps, avec ces œuvres-là. Et ça a été un plaisir de les entendre et les réentendre, parce que c'est d'une richesse et d'une beauté, aussi bien le premier que le second quatuor. Mmh. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, tout à fait, ils sont très différents. Dans le premier, il avait besoin de prouver à tout le monde qu'il savait écrire des quatuors. Il avait très peur que s'il n'en écrivait pas, la postérité dirait de lui qu'il n'avait pas été capable d'en écrire. Et donc il a écrit son premier, enfin il a publié son premier quatuor à 64 ans. Il avait fait des essais quand il était jeune, à 18 ans.
Il s'en est inspiré d'ailleurs, parce que
il s'en est inspiré
les
dans le deuxième, tout
très
à fait.
Jeunes voilà. ont servi au premier quatuor.
Au deuxième quatuor.
Et voilà. Au deuxième et au premier aussi.
Non, le premier, il a fait vraiment quelque chose de très radical et très neuf. Mais par contre, il a enfin assumé ses essais de jeunesse à 60 ans après, en fait. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, il les avait gardés, mais il n'osait pas trop les montrer. C'était dans un esprit très Haydn, très Mozart. Et il n'osait pas les montrer. Et quand il a eu 83, il s'est dit « Bon, allez, je m'en fiche de ce que les autres pensent. Je vais composer ce quatuor. J'aime beaucoup ces thèmes. » Et donc, c'est assez étonnant. Le deuxième quatuor, on dirait vraiment... Le début, on dirait vraiment du Haydn.
Oui,
et le final aussi est très drôle, avec une ouverture avec les... les quatre cordes à vide du violon, et ça revient à la toute fin, c'est assez humoristique. Et par contre, au milieu, il a composé un deuxième mouvement très long, très lent, très avec une dimension très spirituelle.
Le premier, là.
Voilà, alors le premier, c'est très Haydn, très c'est presque un pastiche.
On écoute, je propose ce premier quatuor en mi mineur de l'opus 112, le second mouvement que j'ai particulièrement aimé, c'est Saint-Saëns. Thank you. C'était le second mouvement du quatuor numéro 1 en mi mineur, opus 112 de Saint-Saëns. Et je vous rappelle que c'est Gabriel, c'est le quatuor tchadik qui en est les interprètes. Vous nous dites les prénoms des quatre?
Eh bien, il y a Marc au violoncelle, Sarah à l'alto, Louise au violon et moi-même, Gabriel, au violon aussi.
Racontez-nous, comment ça se passe? Vous êtes tous dans la même maison encore?
Non, pour les répétitions, oui. Voilà. On ne fait pas encore des répétitions en visio, mais non, heureusement, on a un petit peu grandi. Et bon, le dernier qui est plus jeune est encore à la maison, mais sinon, nous, on a chacun nos...
Si je me souviens bien, vous n'êtes pas loin les uns des autres.
Voilà, on essaye de pas trop s'éloigner, parce que les répétitions sont quotidiennes, donc ouais. Il faut essayer de réduire les temps de trajet.
C'est quelque chose d'inouï. Mais quand vous étiez jeune, comme ça, vous faisiez de la musique tous les jours, toute la famille?
Oui, on faisait pas tous les jours ensemble. On faisait tous les jours
comme
des musiciens, quoi. Oui, dans la
vous habitiez dans une maison très grande.
On habite dans une maison pas excessivement grande, mais en tout cas, c'est une maison individuelle qui a un jardin et qui a pas de mur. Pas de voisins qui. Voilà, et on s'entend bien avec les voisins, donc au moins on avait cette chance-là.
Et alors, on rentre dans l'intimité de cette famille. Il y a jamais. Vous êtes tous d'accord pour être ensemble, d'accord sur ce que vous allez jouer, parce que on a tellement d'occasions de pas être d'accord les uns les autres, mais là...
Non, mais on est à la fois une famille, on est aussi maintenant une petite entreprise, hein, puisque c'est notre métier, donc chacun... non, on est des êtres humains, donc on n'est pas tous d'accord tout le temps, mais comme dans une petite société, une petite... Voilà, on discute, quoi.
Oui. Mais je sais que ça marche très bien. Dites-moi, est-ce que c'est un plus pour les organisateurs de concerts de se dire on va faire venir la famille tchadik?
Alors, il y a des organisateurs qui en profitent pour nous mettre tous dans la même chambre, et ça, on déteste ça. Et donc, on exige les mêmes conditions que les autres.
Quatre chambres.
Bah oui, il n'y a pas de raison. Et sinon, non, je vois pas. Enfin, je pense pas qu'à part ça...
Au contraire, je pense qu'il y a un certain attendrissement. On trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est un exploit quand même d'avoir des enfants qui sont tous à un niveau professionnel et capables de jouer ensemble, de s'entendre, de créer. C'est formidable.
Voilà, on fait de notre mieux.
Ça fait penser au trio Pascal, ça fait penser quand même... Il n'y en a pas tellement de par le monde.
Non. Et en quatuor, on aime bien parler des Hagen, quatuor Hagen, qui est un des grands, grands quatuors, qui ont commencé à quatre aussi. Et on aime bien discuter que justement de leur expérience justement familiale. Et voilà, il y a quelques modèles quand même sur lesquels on peut...
Est-ce que vous avez l'impression que après cet anniversaire qui est fêté, quand même, pas comme il aurait dû être, puisque la Covid a tout paralysé, est-ce que vous avez l'impression que c'est la fin de cette année 2021? Difficile de faire un bilan.
Oui, difficile de faire un bilan. En plus, l'année a été tronquée.
Et comment vous êtes reçu, vous, avec ce disque magnifique?
Mais le disque, alors, c'est la première émission qu'on fait, puisque le disque va sortir la semaine prochaine.
Mais on est privilégié.
Voilà,
moi,
vous avez la primeur.
Je pensais qu'il avait déjà une vie derrière lui.
Non, donc les gens vont le découvrir. Et
formidable.
On espère que,
écoutez, voilà. Je souhaite vraiment. Ici, c'est le bonheur dont on parle, donc beaucoup de bonheur.
Mais de toute façon, quand on joue, les quatuors sont toujours bien reçus. Les gens aiment bien.
Oui,
et les organisateurs aussi ne sont pas trop frileux avec les quatuors de Saint-Saëns. Ça va. Il y a le nom quand même. Qui fait
donc
il y a moyen. On a plusieurs dates pour l'année prochaine encore. On sera plus en 21, mais on va continuer de les jouer.
Gabriel, est-ce qu'il y a beaucoup de quatuors, peut-être trop, comme il y a trop de pianistes, ou est-ce que vous n'êtes pas si nombreux et vous ne vous gênez pas? C'est difficile à dire, peut-être.
On est beaucoup de quatuors, comme on est beaucoup de violonistes.
Faites une carrière, vous aussi, indépendamment de la famille.
Oui, j'ai enregistré aussi quelques disques en solo, puis avec mon frère Dania. Non, la concurrence est rude et probablement de plus en plus rude. Et il faut arriver à faire... à montrer qui on est, avoir sa propre voix, disons, démarquer, mais pas de façon extravagante ou originale, juste en étant qui on est, c'est pas facile. Et il faut se battre, voilà, il faut se battre, il faut proposer des choses, il faut essayer de sortir un petit peu des sentiers battus.
Alors, l'un comme l'autre, je ne l'ai pas lu parce que ça prend beaucoup de temps, mais vous avez fait tous ces concours de façon très brillante, vous êtes tous des disques qui ont été primés, vous êtes complètement distingués, malgré votre jeunesse, vous avez des des résultats extrêmement magnifiques et qui doivent vous aider. Et c'est intéressant de voir que vous faites vraiment une carrière parallèlement à la famille, Gabriel.
Oui, ces derniers temps, c'est quand même le quatuor qui a un peu pris le dessus.
Et, ah oui.
Oui, qui est plus demandé. On choisit pas, c'est comme ça que ça.
Ouais. Vous le regrettez?
Non, pas du tout, parce que on entend souvent les pianistes pleurer leur solitude dans leur carrière.
Oui, c'est
donc
vrai.
Au moins, moi, je souffre pas du tout de ça, parce qu'on est tout le temps ensemble, et c'est plutôt, comme l'ambiance est bonne, et c'est plutôt joyeux, donc non, on est toujours content de partir en tournée, ou de partir pour des concerts, donc non, je regrette pas.
Et puis, quels sont les autres? Vous avez enregistré d'autres œuvres en quatuor?
Oui, ça c'est donc notre troisième album, on a fait un genre de triptyque, trilogie française, on avait fait Thierry Esquèche, on était venu d'ailleurs avec Thierry dans ce studio même.
Oui, mais je me dis que tout le monde ne se souvient pas forcément.
Voilà.
C'est pour ça que j'ai plaisir à vous en...
Tout à fait. Donc, Reynaldo Anne l'année dernière et cette année Saint-Saëns. Et non, je regrette d'autant moins que le répertoire de quatuor est absolument incroyable et c'est vraiment une joie immense de jouer rien que ces deux quatuors, les quatuors de Beethoven, c'est toujours... Pour le violon solo, on a un concerto. On a 10 sonates, mais les sonates ne sont pas toutes du même niveau que les quatuors, alors que le quatuor, on a 16 quatuors. Donc, c'est une chance incroyable.
Fanny, je ne vous ai pas interrogé. Je connais la réponse, mais mes auditeurs, pas forcément. Vous avez déjà joué avec orchestre?
Oui, de nombreuses fois.
Souvent?
Oui, très souvent. Et depuis très longtemps. Enfin, déjà assez jeune.
C'est une façon de rappeler que vous faites quand même une immense carrière, vous, Fanny.
Ça fait, oui, très longtemps qu'effectivement, je voyage pour dans le monde entier pour jouer en soliste avec orchestre ou en récital avec piano. Et effectivement, je suis française, mais issue quand même de l'école russe du violon, puisque j'ai eu la chance en fait de rencontrer sur mon chemin de croiser une professeure russe qui m'a inculqué en fait et qui m'a formée selon toutes les valeurs de cette grande école de violon et dont un des premiers principes est de rencontrer la scène le plus tôt possible. Donc bon, j'ai commencé le violon à 7 ans, mais j'ai déjà fait des concerts
très
petites,
jeune.
Voilà, à partir de 9 ans. Je côtoyais la scène justement parce que ça fait partie de l'expérience, de l'habitude du public, du comportement, et puis du travail dans l'apprentissage de l'instrument, des échéances, de la discipline du travail et de prendre aussi goût aussi à cet échange avec le public. Alors c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à percevoir quand on est aussi petit, parce qu'on prend pas la mesure de ce que ça représente vraiment, mais justement pour que ça devienne aussi un univers connu et familier, et donc jouer en concerto avec orchestre, ça faisait aussi partie des choses, donc et autant que les concours internationaux. Donc tout ça, c'était une vraie éducation.
L'un comme l'autre, vous allez me dire, dernière question, avec une réponse succincte, parce que je voudrais qu'on entende le second quatuor de Saint-Saëns. Quelle est la forme, étant donné que vous êtes violoniste tous les deux, qui est la plus exaltante, la plus gratifiante pour vous? C'est de jouer en concerto, c'est de jouer en musique de chambre, Fanny?
Alors tout est complémentaire. Je pense qu'effectivement, jouer en concerto, il y a une dimension, il y a au niveau aussi du volume sonore. Quand on joue le concerto de Sibelius, par exemple, quand on entend les tutti de l'orchestre, c'est absolument fascinant, somptueux, et ça donne des émotions incroyables. Et que j'ai pu jouer avec des orchestres fabuleux, donc forcément, ça nous transporte. Mais quand j'ai pu jouer aussi avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, à Lucerne, enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi souvent les salles aussi pour avec les orchestres ont aussi des acoustiques incroyables. Mais le travail en plus intime, en récital avec un pianiste, bah c'est aussi une autre, c'est
une autre.
Oui, c'est. Bah je ne sais pas. Non, plus c'est une approche plus plus intime, mais la préparation, le travail n'est pas non plus du tout le même. Non, l'échange est différent. Donc c'est aussi c'est très riche. Aussi, et ça nous porte.
Gabriel.
Pas grand chose à rajouter, je pense. Oui, on peut pas vraiment
comparer.
On peut pas vraiment comparer, et effectivement, les deux choses se complètent et ce sont des univers vraiment différents. Les émotions sont différentes, les échanges sont différents, le rapport au public est aussi différent. Donc, les deux sont c'est pour ça, c'est la richesse du métier de musicien aussi, c'est d'avoir différentes modalités, disons, d'échange avec le public.
Et là, on va entendre de ce quatuor que vous aimez tellement jouer, et je vous comprends ô combien. On va entendre dans le quatuor numéro 2 en sol majeur, opus 153, le premier mouvement de Saint-Saëns. C'est évidemment le quatuor tchalique.
Thank you.
C'est le quatuor numéro 2 en sol majeur, l'opus 153, le premier mouvement de Saint-Saëns. Et je vous rappelle que c'est le quatuor Tchalik qui en sont les interprètes. Puis je vous rappelle aussi que j'ai reçu Fanny Clamagirand, qui est la violoniste et qui nous a interprété avec Vania Cohen. Cette danse macabre, l'introduction au rondo capriccioso, la vanesse, l'air de Dalila, de Saint-Saëns chez Naxos. Mais vous pouvez nous retrouver aussi en podcast pendant longtemps, réentendre ces musiciens si charmants et puis réentendre Saint-Saëns dans aussi bien piano, violon qu'en quatuor. Voilà, et puis moi-même, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain bonheur. Au revoir.